Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCJ en ce mardi 1er janvier. Il est 8h et toute l'équipe d'RCJ vous souhaite une très belle année 2025.
La matinale info, Elsa Parienté.
Au programme de cette édition, l'actualité israélienne, on en parlera avec notre correspondant sur place, Julien Balloul. Et on fait tout de suite un tour d'horizon du reste de l'actualité sur RCJ.
Le journal.
L'armée israélienne a annoncé que deux projectiles ont été tirés depuis le centre de la bande de Gaza vers Israël dans la nuit, dont l'un a été intercepté et l'autre a atterri dans une zone inhabitée. Israël avait déjà annoncé samedi, dimanche et lundi avoir été visé par des projectiles tirés depuis Gaza, tous interceptés ou tombés dans des zones non habitées. Des soldats de Tsahal ont identifié des terroristes du Hezbollah qui transféraient des armes d'un dépôt d'armes vers un véhicule stationné à proximité dans le sud du Liban pour éliminer la menace. L'armée de l'air israélienne a frappé le dépôt d'armes et le véhicule, a annoncé ce matin l'unité porte-parole de Tsahal. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est réjoui de l'adoption d'une très importante loi budgétaire, tout en reprochant au ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben-Gvir d'avoir tenté de la faire capoter. Aujourd'hui est un jour important et une grande victoire pour la coalition, a déclaré le premier ministre par voie de communiqué, affirmant que la loi adoptée à une très courte majorité était cruciale pour l'économie et la sécurité d'Israël. Contre l'avis des médecins, le Premier ministre a quitté la salle de réveil de l'hôpital et s'est précipité à la Knesset pour voter, ce qui s'est avéré être le scrutin décisif pour cette loi de finances, finalement adoptée par 59 voix contre 58. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, doit convoquer ce jeudi une réunion avec les ministres pour discuter des options possibles pour la gouvernance de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne devrait pas y participer car il se remet de son opération. La réunion du cabinet de sécurité prévue cette semaine a été annulé. Un nombre inhabituel d'Israéliens, environ 82 700 ont quitté le pays en 2024 en raison de la guerre en cours selon les données publiées par le Bureau central des statistiques d'Israël pour le début de cette nouvelle année. Le rapport met également en évidence le solde migratoire international du pays qui mesure la différence entre le nombre de personnes s'installant en Israël et celles qui le quittent. Le solde s'élevait à moins 18 200. Le président américain élu Donald Trump a déclaré que les otages devraient être libérés rapidement, s'exprimant devant sa propriété de Floride où il a organisé une fête de réveillon du Nouvel An. Interrogé sur ses avertissements concernant l'enfer sur Terre s'ils ne sont pas libérés, il a répondu, je cite, « Nous verrons ce qui se passera ». Les enquêteurs travaillent toujours sur les crashs d'avions de la compagnie Jeju Air qui a fait 179 morts en Corée du Sud. Ils ont extrait les premières données de l'une des boîtes noires du Boeing 737-800, a annoncé un responsable gouvernemental. L'avion de la compagnie sud-coréenne transportait au total 181 personnes, dont 6 membres d'équipage. Tous sont morts à l'exception d'une hôtesse et d'un steward. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré hier soir que l'Ukraine devrait se battre en 2025 sur le champ de bataille, mais aussi à la table des négociations pour mettre fin après 3 années d'invasion russe et une année 2024 marquée par des avancées d'ampleur de Moscou. Le dirigeant de la Syrie, Ahmad al-Shaari, a tenu à Damas des premières discussions positives avec une délégation des forces démocratiques syriennes, coalition dominée par des combattants kurdes et soutenue par Washington. En France, Emmanuel Macron a fait, lors de ses vœux pour 2025, son mea culpa sur la dissolution de l'Assemblée nationale qui a semé, je cite, « division et instabilité » avant d'appeler au ressaisissement collectif face à la grave crise politique qu'elle a provoquée. Le chef de l'État a aussi annoncé dans la traditionnelle allocution de la Saint-Sylvestre qu'il demanderait lors de l'année qui s'ouvre aux Français de trancher certains sujets déterminants pour préparer l'avenir, une manière de laisser entrevoir des référendums ou de nouvelles conventions citoyennes après celles sur la fin de vie ou l'écologie. Dépourvu d'un budget en bonne et due forme pour 2025, le gouvernement a reconduit in extremis les plafonds de crédit des ministères initialement accordés pour 2024 mais compte les limiter aux dépenses essentielles jusqu'à l'adoption d'un budget pour l'État. Et enfin, un groupe de hackers a revendiqué des attaques informatiques visant des sites internet de villes ou départements français et ce, en représailles du soutien français à l'Ukraine. À ce stade, 23 sites dont celui de la préfecture de police ont été recensés comme victimes selon le parquet de Paris qui s'est saisi des faits et a confié l'enquête à la Direction générale de la Sécurité intérieure.
En Israël, chaque seconde compte. Sous la menace constante de missiles, le Magen David Adom est en première ligne pour sauver des vies. ils ont besoin de vous. Maintenant, chaque don permet d'apporter des soins vitaux, de secourir les blessés et de protéger les civils. Faites un don aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org.
mda-france.org.
Magen David Adom.
Association au service de la vie.
Bain et déco.
Donnez à votre salle de bain une dimension unique.
Bain et déco.
Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre.
Le secret bain et déco.
Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet.
Le plus, bain et déco.
Les marques les plus prestigieuses et une seule ambition. L'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne.
Bainetdeco.com.
Bonjour, c'est Marc Velinsky. Pour les fêtes de fin d'année, offrez ou offrez-vous un livre de philosophie souriante. Pourquoi il est impossible de rater sa vie. Dans ce livre, je montre que même si vous connaissez l'échec, la déception, que vous n'avez pas réalisé vos rêves, vous ne pouvez pas rater votre vie. Pourquoi il est impossible de rater sa vie ? Aux éditions First.
En Israël, l'année civile a débuté comme partout dans le monde, mais cette nouvelle année a un goût amer pour beaucoup de monde, notamment les familles des otages. Racontez-nous, Julien, comment ce 1er janvier est vécu en Israël ?
Oui, bonjour. Bah, écoutez, ce 1er janvier, déjà, 1er janvier, il faut savoir, en Israël, c'est toujours un peu particulier pour ceux qui ont l'habitude de fêter le nouvel an, parce que pas tout le monde le sait, mais le 1er janvier n'est pas férié en Israël. Donc, on travaille. Nous travaillons ce matin. Les enfants vont à l'école plutôt bien de rien, parce que là, c'est sur les vacances de Hanouka. Mais voilà, c'est un jour comme un autre. Donc, les Israéliens ne peuvent pas trop se permettre de faire la fête jusqu'au bout de la nuit, sauf si ça tombe pendant un week-end. Mais là, ce n'est pas le cas. Et puis, vous le disiez, c'est un nouvel an avec un goût amer cette année, hein, notamment pour les familles des otages, mais pas uniquement, pour beaucoup de monde. Comment se dire bonne année? Comment se réjouir lorsqu'on sait qu'il y a 100 Israéliens depuis plus de 450 jours otages de barbares dans la bande de Gaza, et c'est surtout ce constat, en fait, de se dire que le 31 décembre 2024, on se souhaite la même chose que le 31 décembre 2023, à savoir la libération des otages, à savoir le retour de nos amis qui sont Miloïm, et on se dit, c'est le deuxième réveillon de Nouvel An qu'on passe dans les mêmes conditions, finalement. Alors, les choses, évidemment, ont beaucoup changé, hein. Il y a beaucoup de choses bien qui se sont passées cette année, mais de se dire qu'on en est encore là après tout ce temps, c'est forcément très difficile, très douloureux. Et puis, on va pas se mentir également, il y a quand même cette sensation étrange de se dire, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle journée, mais dans nos têtes, dans nos esprits, nous sommes encore le 7 octobre 2023. Et je sais pas, c'est quelque chose qui est très percevable à l'étranger, qui est compréhensible de loin, mais en fait, pour beaucoup d'entre nous, le temps s'est arrêté il y a plus de 450 jours et on a du mal à passer à autre chose, dans le sens où les otages ne sont pas revenus, dans le sens où il y a des deuils régulièrement, dans le sens où voilà, on annonce des morts, parfois des soldats qui sont tués, mais une fois le deuil passé, une fois l'enterrement passé, une fois la chiva passée, ce sont des vies qui sont détruites, des familles qui sont détruites à tout jamais, et le deuil a été très très présent cette année. Donc forcément, cette année, c'est difficile de faire la fête, de se souhaiter une bonne année alors qu'on est dans des telles conditions, c'est un petit peu compliqué. Puis malgré tout, on essaye de regarder le positif en se disant il y a eu des choses assez extraordinaires qui se sont passées pour l'État d'Israël cette année. Lorsqu'on compare la situation de l'État d'Israël entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2023, forcément, on est dans une meilleure situation sécuritaire. On va pas se mentir, Israël a eu des exploits extraordinaires cette année contre nos ennemis. Donc ce sont aussi des choses qu'il faut relever. Je vous rappelle que le 31 décembre 2023, on était vraiment attaqué de toutes parts. Et un an après, le Hamas est en miettes, le Hezbollah a été entièrement décapité, l'Iran a été frappé à plusieurs reprises, la Syrie est tombée. Donc c'est quand même des prouesses extraordinaires de l'État d'Israël qu'il faut relever.
Et quelques heures avant le début de 2025, le Bureau des statistiques a publié des chiffres détaillés sur la population israélienne, avec notamment ce cap symbolique franchi. On compte désormais plus de 10 millions d'habitants en Israël.
Eh oui, ça y est, pour la première fois depuis la naissance de l'État d'Israël, nous sommes plus de 10 millions, ce qui est évidemment extrêmement symbolique lorsqu'on sait hein, tout le chemin parcouru par l'État d'Israël. Alors, quelques détails dans ces 10 millions, 74% de la population israélienne, ce sont des juifs, 21% des musulmans, et 5% d'autres religions. Au sein de la population juive, c'est assez intéressant de voir pour le moment la séparation, plutôt disons le détail de la population juive. 44% sont considérés comme chilonim. Alors chilonim, c'est une traduction un petit peu compliquée en français parce que laïque n'est clairement pas le mot. Il n'y a pas de laïque en Israël. Disons qu'on va dire ce sont des gens qui ne sont pas religieux. 33% sont ce qu'on appelle des traditionalistes. 11% sont des religieux. Alors quand on dit religieux en Israël, c'est tendance, disons, Bnei Akiva, tendance consistoriale, si vous voulez. Ceux qui font Shabbat, ceux qui mangent kasher, ceux qui vont à la synagogue régulièrement, qui vont à l'armée, et 11% ceux qui sont orthodoxes, donc Haredim. Donc voilà, il y a 44% de personnes qui se disent pas religieuses. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire par religieux en Israël? Parce que de toute façon, on fait ensemble le dîner de Shabbat, on se voit pour les fêtes, etc., etc. On est très loin de la conception non religieuse qu'on peut évidemment imaginer à l'étranger, mais c'est comme ça que c'est défini en Israël. On est à peu près à 50% de femmes et d'hommes en Israël. Et puis, ce qui est intéressant de voir également, c'est ce détail démographique avec une population qui est très jeune. Il y a en Israël 3 millions et quelques qui ont moins de 18 ans, et il y a à peine 1,2 million qui ont plus de 65 ans. Donc, c'est une population qui est extrêmement jeune. Les 18-65 ans sont la plus grande majorité, mais c'est une population qui est jeune. Israël est un pays qui fait pas mal d'enfants, ce qui est une bonne chose évidemment pour la démographie. Le grand problème hein, qui s'annonce par contre à l'horizon, ça va être le fait qu'on va être un petit peu nombreux sur ce territoire qui est assez étroit. Donc, il va falloir trouver des solutions de logement, il va falloir trouver des solutions pour circuler. Il y a des énormes problèmes d'embouteillage, on le sait. Il va falloir également faire en sorte que tout le monde trouve du travail. On sait qu'il y a ce grand défi qui est l'emploi pour la société orthodoxe. Et puis, quelques données sur l'immigration en Israël. C'est évidemment important pour ceux qui nous écoutent à l'étranger, mais il y a des choses qui sont inquiétantes. Il y a 53% des gens qui ont émigré en Israël qui ont émigré avant les années 90 et 50% après les années 90. Ce qui est important de noter, c'est que 2023, et ça c'est un chiffre qui est inquiétant, 2023 a été une année record du nombre d'Israéliens qui ont quitté le pays pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Et 2024 risque également de s'annoncer comme une année record. Et ça, on le voit dans de nombreux domaines, et surtout les domaines les plus qualifiés. Et ça risque d'être dramatique, parce que si le pays commence à perdre ses cerveaux, on va se diriger vers un très sérieux problème dans les prochaines années. Donc on va espérer évidemment que la tendance va rapidement s'inverser.
Merci beaucoup Julien Balloul pour toutes ces explications. Vous êtes sur RCJ. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à midi pour la suite de l'information. Très belle journée à toutes et à tous.
Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info.
allemand. Bercé d'humiliation, de haine, d'ignorance. Nourri de rêves, de revanche. Aurais-je été de ces improbables consciences, larmes au milieu d'un torrent. Suis-je avec grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste. Aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir tant d'une main. Si j'étais né blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur, aurais-je entendu ces cris portés par le vent. Rien ne sera comme avant. On saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres, caché derrière nos apparences. La main d'un brave, d'un complice ou d'un j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps.
Bonne matinée sur RCJ. Bonjour, c'est Frédéric Zetoun, je suis ravi de vous donner rendez-vous tous les 15 jours, le vendredi sur RCJ, pour une nouvelle émission, Les Refrains de mon cœur. Les Refrains de mon cœur, un invité nous raconte les chansons qui ont compté dans son existence. Un vendredi sur deux, Les Refrains de mon cœur sur RCJ.
Je marche sur l'eau. Tu me souffles à l'oreille que l'amour te réveille, qu'ici tout est beau. Alors je laisse mon cœur dériver. Mon cœur s'est tourné, car il faut que je te dise, je suis tombé sous le charme. Je crois pas au hasard, le jour comme le soir, tu me tiens chaud. Comme l'ébène et l'ivoire, viens on va s'asseoir au vieux piano. Alors tu laisses ton cœur décider, ton cœur hésiter, mais j'aimerais t'entendre dire, je suis ton.
RCJ.
À l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info.
Bonjour, c'est Sandrine Seban, je vous retrouve dans Essentiel.
Gilbert Montagnier, bonjour.
Bonjour la Sandrine.
Le magazine culture de RCJ, écrivain, chanteur, comédien.
Le maître, le génie, Michel Jonas, bonjour.
Pas exagéré, bonjour Sandrine.
Je vous donne rendez-vous les lundis et mercredis de 11h à midi. À très vite.
Merci, merci Sandrine, merci à tous. RCJ.
Bras de bois, de clair.
journée sur RCJ.
RCJ, rendez-vous à 11h. RCJ, un média du Fonds social juif unifié.
Il est 8h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous, comme tous les matins. Nous sommes le mercredi 1er janvier 2025, premier jour de l'année. Il y a toujours 100 otages, malheureusement, dans la bande de Gaza. Et nous allons faire le point de l'actualité avec Eva Soto dans quelques instants. Eva Soto.
Le journal de 8h30 vous est présenté en partenariat avec Progrès Santé, l'école référente depuis plus de 30 ans pour les formations paramédicales. En alternance ou en initiale, devenez un acteur de la santé. Informations sur progrès-santé.com et sur Parcoursup. Progrès Santé, votre avenir professionnel commence ici.
Et oui, Eva Soto que l'on retrouve évidemment. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le 453e jour de guerre et selon le Wall Street Journal ce matin, les négociations sur la libération des otages et le cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont dans l'impasse. Un accord est peu probable avant la fin du mandat de Joe Biden aux États-Unis. C'est ce qu'affirment des responsables arabes au Wall Street Journal, proche du dossier. De son côté, Donald Trump a réitéré hier soir ses menaces contre les groupes terroristes qui détiennent les otages israéliens. Je vais le dire ainsi, il ferait mieux de laisser les otages revenir bientôt, a-t-il affirmé. C'est à sa façon que le Hamas a fêté le passage à l'année civile 2025 à minuit pile. Le groupe terroriste depuis la bande de Gaza a tiré des roquettes contre Israël. Deux, les sirènes d'alerte se sont déclenchées dans la région du Negev. L'une des roquettes a été interceptée et l'autre a explosé dans une zone inhabitée. L'armée israélienne et le Shin Bet ont éliminé l'un des commandants des forces d'élite du Hamas qui a joué un rôle majeur dans les attaques du 7 octobre. C'est lui qui a dirigé l'infiltration dans le kibboutz Nir Oz. Ensuite, il a organisé plusieurs autres attaques contre les forces israéliennes dans la bande de Gaza. Abd al-Hadi Sabah a été visé lors d'une frappe à Khan Younes. L'élimination du commandant du Hamas n'est qu'une étape vers la justice, affirment les responsables du kibboutz de Nir Oz. Une pause de 7 jours dans les combats pour faire la liste des otages, toujours 100 à Gaza, c'est ce que propose le Hamas. Le groupe terroriste affirme qu'il n'est pas en mesure de produire la liste des otages encore vivants. Les forces de défense israéliennes ont mené hier une frappe contre une cellule du Hezbollah dans le sud du Liban, cellule qui transférait des armes d'un entrepôt vers un véhicule. Tsahal est déployé dans le sud du Liban et s'efforcera d'éliminer toute menace contre l'État d'Israël et ses citoyens, a déclaré l'armée dans un communiqué. Politique, Benjamin Netanyahou de retour à l'hôpital Hadassa. Il a quitté sa chambre hier contre l'avis des médecins après son opération de la prostate. Le Premier ministre a tenu à prendre part au vote d'une loi clé relative au budget de l'État. Le texte a été adopté de justesse par 59 voix contre 58. Itamar Ben-Gvir a voulu faire barrage à ce texte. Faute d'adoption du budget, le gouvernement Netanyahou risquait de tomber. Antisémitisme, un homme armé arrêté pour avoir planifié d'attaquer un bureau de l'AIPAC en Floride. L'AIPAC, c'est le lobby américain pro-israélien le plus important. Nous prenons ces menaces très au sérieux, ont déclaré les responsables de l'organisation. Les vœux d'Emmanuel Macron hier soir, le président qui s'est prêté pour la 8e fois à l'exercice. C'est la première fois qu'il s'exprimait depuis la nomination de François Bayrou comme Premier ministre et il a fait son mea culpa sur son initiative de dissoudre l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup Eva Soto, rendez-vous tout à l'heure à partir de 9h sur Radio J.
Le journal de 8h30 vous a été présenté en partenariat avec le Collège Tikva. Collège Tikva, le premier collège trilingue à Boulogne. Renseignements Collège Tikva sur collegetikva.com. 01 49 23 73 41. Collegetikva.com. Collège Tikva, parce que chaque élève est unique.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, notre invité, l'invité de la rédaction, Dan Katarivas, président de l'association des chambres de commerce binationales, spécialiste de l'économie en Israël. Et justement, en ce 1er janvier 2025, c'est l'occasion de faire le bilan de la situation économique pour l'État hébreu. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois pour Israël? Est-ce que l'économie israélienne a su se relever malgré les défis, malgré la guerre? On en parle à tout de suite.
Radio-Z.
écoutez Radio J à Paris sur 94.8
et sur radioj.fr.
Radio J. Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Et oui, en ce début d'année 2025, l'économie israélienne se distingue par une résilience remarquable, malgré une année 2024, marquée par des tensions géopolitiques, des conflits, des défis économiques majeurs entre perturbations commerciales, inflation, adaptation stratégique des entreprises. Israël, malgré tout, a su maintenir le cap. Alors, pour analyser ce bilan économique, nous avons le plaisir d'accueillir en direct Dan Katarivas, président de l'Association des chambres de commerce binationales, spécialiste donc de l'économie en Israël. Bonjour.
Bonjour, bonjour à vous.
Merci beaucoup, Dan, d'être avec nous ce matin sur Radio J. Et bonne année à vous. Bonne année 2025, en espérant évidemment le retour des otages au plus vite à la maison. Alors, pour cette première question, comment vous décririez d'abord l'état global de l'économie israélienne cette fin d'année 2024, après 15 mois de guerre ?
Écoutez, je dirais que le tableau finalement est relativement positif. Je parle maintenant de la surtout de ce qu'on appelle le tableau macroéconomique israélien. Il y a une différence entre l'économie en général et donc les données, que ce soit l'inflation, le chômage et les réserves de la Banque centrale, le déficit, tout ça, ce sont en fait les données macroéconomiques, les fondamentaux de l'économie israélienne qui finalement sont effectivement assez positifs, surtout après 15 mois de guerre. Mais il y a également l'image microéconomique qui tient en fait, je dirais, à la poche de chacun des citoyens. Là, la situation est un peu plus compliquée. Les augmentations qui vont avoir lieu à partir d'aujourd'hui dans beaucoup de domaines vont faire que la vie en Israël va devenir encore plus chère. Et on sait très bien que déjà le coût de la vie en Israël est très cher. Et il y a effectivement le problème de beaucoup d'entreprises, surtout des petits commerces, des petits des indépendants, des professions libérales, pour beaucoup de gens qui ont passé de longues journées au Milouim. Comme vous savez, la société israélienne s'est mobilisée pour justement aider les gens à passer le mauvais cap et essayer de surmonter les difficultés. Nous ne sommes pas encore sortis vraiment de la situation. Donc au niveau microéconomique, il y a des problèmes sur le terrain pour les familles, pour les foyers. Là aussi, c'est différent entre le nord, le sud et le centre. Mais dans l'image générale de la force de l'économie israélienne, finalement, c'est-à-dire tout le monde a été surpris par la solidité, la résilience de l'économie.
Alors vous parliez aussi de vie de plus en plus chère, et on va faire le point aussi puisque les Israéliens doivent faire face à une série de hausses dans différents secteurs que détaille d'ailleurs ce matin le quotidien israélien Maariv. Quels secteurs ont été finalement les plus impactés par les perturbations commerciales et lesquels ont su rebondir facilement? On parle beaucoup du secteur du high-tech notamment qui a surpris.
Alors écoutez, il a surpris, mais là aussi l'image n'est pas claire. D'un côté, le high-tech était déjà, je dirais, en difficulté avant le 7 octobre, puisqu'il y avait un ralentissement au niveau global, il y avait une baisse dans le monde entier d'investissement dans des startups, etc. Et Israël, avec ce qui se passait à l'intérieur, avec ce que vous vous souvenez de l'incertitude et tout ce qui se passait à l'intérieur d'Israël dans le domaine de la réforme judiciaire, etc., tout ça avait déjà un impact sur un ralentissement. D'un autre côté, comme l'innovation reste toujours, je dirais, quelque chose de très important en Israël, et on a vu des secteurs comme la cybersécurité, comme aujourd'hui l'intelligence artificielle, comme le domaine du food tech, qui sont des domaines qui sont porteurs en Israël. Donc là aussi, le high-tech, finalement, avec le ralentissement mondial, aujourd'hui, il y a une relance, et en Israël même aussi, on voit à nouveau des investissements étrangers venir, et en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent, ben justement, c'est le moment d'investir en Israël, puisque peut-être que les prix sont plus bas, c'est-à-dire en fait, il y a plus d'opportunités, et c'est un bon moment pour investir. Donc, on voit que le high-tech continue à être un moteur de croissance pour Israël, et donc les choses à ce niveau-là ne se passent pas trop mal. Maintenant, il y a d'autres secteurs qui effectivement ont été beaucoup plus touchés, les secteurs en l'occurrence le tourisme, ça c'est normal dans la mesure où une zone de guerre, c'est pas une zone où on vient en tant que touriste, mais là aussi, je dirais les dégâts qu'on peut au niveau du tourisme, par exemple tout ce qui est l'industrie hôtelière, elle a finalement, je dirais, bénéficié, si vous voulez, c'est assez du fait que les gens qui ont été déplacés du nord ou du sud ont été logés dans les hôtels. Donc les hôtels, malheureusement, n'ont pas eu de tourisme, mais au moins ont pu continuer à fonctionner, oui, avec justement les gens déplacés qui étaient dans ces hôtels. Donc le domaine du tourisme, qui n'est pas un domaine très porteur, mais bon, qui emploie quand même pas mal de personnes, a été touché. Maintenant, dans les autres domaines qui ont été touchés, mais là, ça a été pas, parce qu'il faut, bien comprendre qu'il n'y a pas eu de dégâts matériels importants en Israël dû à cette guerre. Il y a effectivement les zones du nord et du sud qui ont été, je dirais, où les gens ont quitté, et donc ces zones ont été immobilisées, si tu veux, au niveau économique. Et le gros problème, que par exemple tout le domaine de la construction en Israël est un domaine qui dépendait énormément de travailleurs palestiniens qui venaient travailler en Israël. On parlait à peu près 120 000 travailleurs palestiniens qui venaient. Depuis le 7 octobre, le nombre a été énormément réduit. Donc si on regarde quelles ont été les répercussions économiques, certainement le manque, oui, de main d'œuvre en général, c'est le problème clé aujourd'hui en Israël. Et c'est dû au fait également de beaucoup de personnes qui sont appelées sous les drapeaux, tous les milouimnikim qui font leur période de réserve. Cela crée un gros problème dans le marché du travail israélien, et cela empêche, je dirais, à l'économie israélienne d'arriver à ce qu'on appelle full capacity, c'est-à-dire de vraiment réaliser son potentiel de croissance, vu, je dirais, le manque de main-d'œuvre qui est dû et au problème avec les Palestiniens et au problème des réservistes, et au fait que même avant le 7 octobre, il y avait déjà une pénurie de main-d'œuvre qui était élevée en Israël. Donc ça reste un problème majeur.
Et pourtant, c'est intéressant, hein, Dan Katariba, parce que le taux de chômage a continué de baisser apparemment pour atteindre 2,5% en octobre. Comment vous l'expliquez, ça ?
Justement, le fait est qu'il nous manque de la main d'œuvre, donc tout ce qui est ce qui est en train de se faire en Israël, et là aussi les idées sont assez partagées, c'est faire venir de la main d'œuvre de l'étranger, faire venir des travailleurs immigrés, si je puis dire, des travailleurs venant d'Inde, de Sri Lanka, d'Ouzbékistan, d'Azerbaïdjan, etc. Donc finalement, il y a le plein emploi en Israël. Vous savez, les statistiques, on peut faire ce qu'on veut avec les statistiques, mais il n'y a pas de chômage en Israël, parce que finalement, beaucoup de gens sont ou au Milouim ou au travail. Donc il n'y a, pas de problème à ce niveau-là.
Alors je voulais aussi qu'on parle de l'industrie de la défense. C'est vrai que pendant la guerre, Israël a eu le soutien des États-Unis, notamment, qui a financé beaucoup d'armements, qui continue d'ailleurs à financer l'armement d'Israël. Où en est-on concrètement cette année 2025, début 2025, fin d'année 2024?
Alors effectivement, quand on parle aussi des bénéfices, si je peux parler de bénéfices de la guerre, c'est effectivement que l'industrie militaire israélienne, d'abord, il y a qu'à voir ce qui s'est passé, est-ce qu'on voit d'ailleurs les performances, je dirais, des technologies israéliennes militaires, que ce soit le dôme de fer, ou que ce soit le Hetz, ou toute la défense aérienne, etc. Ça, effectivement, l'image de marque de l'industrie militaire israélienne est certainement en amont. Et cela provoque aussi beaucoup de demandes à l'étranger, vu le fait que en Europe, par exemple, les budgets de défense sont également en train d'augmenter. Donc là, il va falloir trouver le bon équilibre entre, d'un côté, venir aux besoins de militaires israéliens, mais d'un autre côté, également profiter du fait qu'il y a beaucoup plus de demandes aujourd'hui pour justement les produits israéliens, que ce soit les drones, que ce soit les systèmes de contrôle, que ce soit tout l'électronique qui va, le cyber et compagnie. Donc l'industrie militaire israélienne se porte bien. Malheureusement, c'est dû effectivement, je dirais, au conflit. Mais là aussi, il faut comprendre que l'industrie militaire, ce qui est important, c'est, je dirais, ce qu'on appelle les retombées civiles, parce que finalement, oui, ce qu'il faudrait, c'est que l'industrie israélienne et l'économie israélienne ne soient pas basées que sur le militaire, mais au contraire, qu'il y ait des retombées dans le civil, et on voit c'est ce qui est en train de se faire. Et là aussi, il va falloir également, et voilà, l'un des défis de l'économie israélienne, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre combien on produit en Israël et combien, en fait, on dépend de sources extérieures. Parce qu'il est vrai que cette guerre a montré à quel point Israël, finalement, il y avait une certaine vulnérabilité. Et donc, heureusement, les Américains sont venus, je dirais, à l'aide d'Israël en envoyant effectivement beaucoup de munitions et beaucoup de matériel. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on réduit cette dépendance, on essaye de minimiser la dépendance israélienne sur des sources étrangères pour tout ce qui est produits militaires. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus, négliger le fait de développer une industrie civile pour une période de paix.
Alors, je le rappelle, Dan Katarifas, vous êtes président de l'Association des chambres de commerce binationales. C'est intéressant aussi de s'intéresser aux partenaires commerciaux, finalement, d'Israël. Alors, lesquels se sont avérés les plus fiables, finalement, en 2024, hormis les États-Unis? On parle beaucoup de la Chine, de plus en plus de la Chine. Qu'en est-il exactement?
Les exportations israéliennes, l'importation et l'exportation, le commerce extérieur israélien, finalement, a été relativement solide. Il y a un seul pays où effectivement les choses sont très mal passées, c'est la Turquie. La Turquie qui, c'est le seul pays qui finalement a imposé un embargo presque total sur les importations et les exportations. Tout le reste du commerce extérieur israélien finalement a continué à fonctionner et on voit qu'il n'y a pas eu d'augmentation très grande d'exportation. Ça, c'est dû au manque de capacité de production du côté israélien, parce que la demande, là, elle existe. Pour ce qui est de la Chine, écoutez, la Chine, il faut mettre les choses dans leurs proportions. La Chine n'a jamais été un partenaire important pour les exportations israéliennes. Oui, c'est un partenaire important pour les importations. Je lisais ce matin dans le journal qu'aujourd'hui, les Chinois sont le numéro un sur le marché de l'automobile israélienne. Donc, on continue certainement à importer beaucoup de voitures électriques en provenance de la Chine, mais les relations économiques entre Israël et la Chine sont surtout basées sur le fait que nous importons les produits bon marché et de bonne qualité de Chine. Pour ce qui est des exportations israéliennes, les choses depuis des années sont relativement stagnantes, et pour ce qui est de la coopération entre Israël et la Chine pour des projets d'infrastructure, oui, c'est vrai, des grosses boîtes chinoises ont gagné des appels d'offres israéliennes pour, par exemple, le métro de Tel Aviv, en fait, le tramway de Tel Aviv, mais là aussi, on voit qu'il y a, je dirais, un certain ralentissement, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même Israël fait partie du camp occidental, nous sommes des alliés des Américains, et là, il faut prendre en considération également, je dirais, les intérêts américains, et les Américains essayent de créer, un front anti-chinois, et Israël ne peut pas se permettre trop de liberté dans ce domaine-là, il doit quand même essayer de se mettre sur la même longueur d'onde que les Américains. La Chine est importante, mais ce n'est pas aujourd'hui un partenaire, majeur, sauf au niveau des importations. Et pour ce qui est de l'expansion de la coopération, par exemple, dans la recherche et le développement, dans l'innovation, la Chine n'est pas le partenaire le plus important. Au contraire, c'est l'Europe et les États-Unis qui continuent à l'être.
Alors, une dernière question pour terminer, Dan Katarifas. Avec l'entrée de la nouvelle année, les Israéliens doivent faire face, on l'a dit, à une série de hausses dans différents secteurs. Le quotidien Maariv, ce matin, a alerté sur une série, effectivement, des hausses de prix qui attendent les ménages en Israël dès ce mois de janvier 2025. La TVA est passée de 17% à 18%, ce qui impacte les dépenses courantes, le carburant, l'immobilier. Comment ces hausses, finalement, de taxes et de tarifs vont affecter les ménages, et quelles mesures, surtout, le gouvernement pourrait prendre pour limiter l'impact sur les familles les plus vulnérables?
Écoutez, la guerre coûte beaucoup d'argent. Elle coûte de l'argent d'abord. Et la guerre est un très grave problème d'abord au niveau des pertes humaines, et ça n'a pas de prix. Mais au niveau du prix, effectivement, aujourd'hui, on chiffre à presque 300 milliards de shekels le coût de la guerre, et ça, il faut le financer. Donc, qui va le financer? Ça va être les citoyens israéliens qui vont avoir effectivement participer à l'effort de guerre au niveau économique. Cela va probablement, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas d'augmentation du niveau de vie dans les années à venir. Tout le monde va être obligé de effectivement faire des économies, réduire certains services publics vont être réduits, mais ça, c'est inévitable. Maintenant, le gouvernement, là, je dois dire que le gouvernement pourrait faire certainement beaucoup mieux. Les priorités aujourd'hui du gouvernement, à mon avis, et pas seulement le mien, mais beaucoup de personnes en Israël pensent que le gouvernement, dans son comportement économique, ne met pas les priorités qu'il faut. Il y aurait des économies à faire dans certains domaines, comme par exemple fermer un nombre de ministères qui sont certainement superflus, et prendre des mesures qui justement pourraient alléger un petit peu le poids sur les citoyens. Mais il est certain que les écarts sociaux, malheureusement en Israël, vont probablement s'élargir, parce qu'effectivement en période de crise, ce sont les éléments les plus... plus fragiles, qui souffrent plus, et les éléments et les gens qui ont des ailes qui sont plus solides souffrent moins. Donc là aussi, il faudrait une politique qui soit une politique beaucoup plus axée sur le social. Mais malheureusement, vous savez, les ressources sont limitées. Et je pense que quand on regarde, je dirais, l'avenir dans 2, 3, 4 ans, à moyen et à long terme, finalement, les fondamentaux de l'économie sont très solide, et je pense que je suis un optimiste à voir l'augmentation, je dirais, et la croissance qui reprendra, et la situation géopolitique qui, elle aussi, peut avoir des influences très positives si on va vers une situation ou une normalisation avec des pays dans la région, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, ce qui provoquerait un changement géopolitique dans la région. Cela aura des influences très positives sur l'économie également.
Eh bien, merci beaucoup, Dan Katarivas, pour ces précisions et ces explications ce matin. Important, effectivement, de faire un point sur ce qui s'est passé cette année 2024. Très bonne année 2025 et à très bientôt.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Dans quelques instants, nous allons retrouver le docteur Serge Rafal. Alors oui, nous passons à une nouvelle année, nous célébrons une nouvelle année. Saviez-vous que le 1er janvier, autrefois, portait un nom qui pourrait bien vous faire lever quelques sourcils, voire plus, comme l'a dit Eva Soto tout à l'heure, la fête du Saint Prépuce. Et oui, vous avez bien entendu. Alors, il faut regarder de plus près, hein, cette journée marquée en réalité une fête juive très sérieuse, le 1er janvier, celle de la circoncision de Jésus, tout simplement, célébrée jusqu'en 1970 dans le calendrier catholique. Pourquoi le 1er janvier? Parce que selon la tradition juive, vous le savez, tout garçon devait être circoncis après sa naissance, quelques jours après sa naissance, et donc Jésus, né juif, n'y échappait tout simplement pas. Un détail important qu'il est bon de rappeler à l'heure où on tente de réécrire l'histoire dans une dérive idéologique, puisque Jésus venait bien de Judée, était juif, ses parents étaient juifs, et pendant des siècles, alors ça c'est aussi assez rigolo, plusieurs églises et monastères en Europe ont prétendu posséder ce fameux prépuce, ce saint prépuce, ces reliques qui étaient considérées comme des objets de grande vénération et qui attiraient de nombreux pèlerins, la relique la plus célèbre étant conservée apparemment à Calcata en Italie, jusqu'à ce qu'elle disparaisse mystérieusement dans les années 1980. Mais qui a volé le saint prépuce? On ne sait pas. En tout cas, c'est comme ça que s'appelait le 1er janvier pendant très longtemps. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter de très belles fêtes, allumage aussi de la 8e bougie ce soir, la dernière, allumage public d'ailleurs, place de l'Opéra dans le 9e arrondissement. Ce sera à partir de 18h.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
La santé avec le docteur Serge Rafal, il est avec nous en direct. Bonjour docteur.
Bonjour Ilana.
Eh oui, le réveillon du jour de l'an s'est déroulé hier soir. Hanouka se termine ce soir, demain en tout cas. Vous souhaitiez, Serge, prodiguer quelques conseils à ceux qui n'ont pas encore parfaitement digéré ou qui ont peut-être carrément la gueule de bois.
Oui, Ilana, les repas de fête, a fortiori arrosés, sont synonymes d'excès calorique et tout particulièrement de sucre et de graisse, dont les apports peuvent être doublés, voire triplés à nos fameuses latkes.
J'adore ça. Alors, avec quelles conséquences, Serge?
Ce qu'on appelle la crise de foie, qui en réalité médicale n'existe pas. Mais les symptômes, eux, sont néanmoins bien présents. Des troubles digestifs hauts provenant de l'estomac, qui a du mal à se vider, nausées, brûlures gastriques, éructations. Des troubles digestifs plus bas, qui viennent, eux, de l'intestin. Des ballonnements, des gaz, des flatulences, mal de ventre, la diarrhée et l'alcool qui, comme l'amoureux de Piaf, continue parfois à faire tourner la tête.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors très simplement, la digestion, Serge ?
Oui, très simplement, il s'agit d'une fonction physiologique qui transforme les aliments en nutriments et en sel. Alors, elle débute dans la bouche avec la mastication. C'est un phénomène primordial, bien que trop souvent expédié, surtout un soir de fête. Elle broie les aliments, les enrobe de salive, ça c'est la première étape d'une bonne digestion. Elle est rapide, hein, elle dure quelques secondes. Elle se poursuit dans l'estomac où sont sécrétés des sucs digestifs. Hein, le liquide gastrique, c'est presque de l'acide chlorhydrique pur, donc ça participe à la dégradation des aliments qui sont préalablement broyés plus haut. Ceux-ci sont ainsi prédigérés, se dirigent vers l'intestin où se poursuit leur digestion grâce à l'action du pancréas, de la vésicule biliaire. Ils poursuivent leur route dans l'intestin, ce qui prend environ 4 heures. Les nutriments non absorbés se transforment en matière fécale dans le côlon, ce qui dure environ 16 heures. La digestion complète, bon, vous l'avez calculé, de l'entrée à la sortie, prend généralement autour de 24 heures.
Et dans le cas d'un lendemain de fête, comment ça se passe? C'est différent?
Eh ben oui, la digestion a évidemment beaucoup de mal à métaboliser les trop grandes quantités ingurgitées, d'où l'inconfort qui est aggravé par la gueule de bois, puisque l'alcool a tendance à déshydrater, malgré ou plutôt à cause du flot de liquide ingéré.
Alors, que faire, Serge? Que faire, docteur?
Bah, tout dépend des symptômes et puis de la façon habituelle de se soigner. Alors, les adeptes de l'homéopathie vont se précipiter sur leurs médicaments miracles, hein, la noix vomique ou Nux vomica, à la dilution de 5 ou 7 CH en répétition, 3 granules qui vont laisser fondre sous la langue 3, 4 fois dans la journée. Les adeptes des plantes de la phytothérapie vont choisir des plantes dépuratives ou digestives, l'artichaut, bien sûr, le chardon-marie, le fenouil, le radis noir, qu'ils vont accompagner de beaucoup d'eau, de l'eau minérale, des infusions, des jus, des potages, du thé vert. Les utilisateurs des huiles essentielles vont se précipiter sur le produit de référence ici, la menthe poivrée, Mentha piperata, alors une goutte, une à deux fois par jour. Les partisans de l'allopathie vont recourir aux médicaments symptomatiques, bien sûr du paracétamol contre les maux de tête, un antiémétique comme le Vogalen contre les nausées, du citrate de bétaïne ou du sorbitol pour activer la production de bile et tenter d'activer la digestion des graisses, un pansement gastrique, du Mahalox, du Gaviscon, du Fosfalugel, voire un IPP, un type oméprazole en cas de brûlure ou de reflux, du charbon ou de l'argile contre les ballonnements ou de la diarrhée.
Et que dire d'un bon jeûne, Serge?
Pas une alimentation frugale en tout cas. Hein. Certains vont profiter de l'occasion pour se priver volontairement de nourriture afin d'aider l'organisme à se nettoyer, se purifier, se régénérer, se détoxifier. Notion très à la mode. Même si, vous savez, je la trouve quelque peu surannée, elle date d'une époque révolue, hein, la fin du 19e siècle, où la théorie des humeurs, qui elle date de l'Antiquité, prévalait encore en médecine. Le rein et le foie ont pour fonction principale ou essentielle de détoxifier l'organisme, pas besoin de les surcharger sous prétexte de les aider. Mais pourquoi pas une journée de diète ou de semi-diète si on a vraiment abusé? On peut l'agrémenter d'un bouillon maison facile à préparer et à digérer.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge?
Bienvenue à l'année civile 2025. On espère il en a plus douce que la précédente. Je vous présente tous mes voeux et bis in that one secure, comme on disait à la maison.
Eh bien, merci beaucoup, Serge Raphaël. Bonne année également à vous 2025, que vous puissiez continuer de nous régaler avec vos chroniques et vos bons conseils santé. Je vous dis à demain.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J, mercredi 1er janvier 2025. On vous souhaite évidemment une très belle année, pleine d'argent, d'amour, de bonheur, la santé évidemment, et puis notre vœu principal évidemment, que les otages reviennent à la maison au plus vite. Ça va, Léa?
Ça va bien, Ilana.
Vous étiez à la campagne hier?
Absolument, et je vous dis un petit secret, j'ai loupé le passage.
C'est pas vrai?
Non, je faisais dodo.
Écoutez, bienvenue au club. Je pense que ça, tous les journalistes et animateurs et réalisateurs de la radio ont eu la même soirée en fait hier soir. On aurait pu rester ensemble finalement.
C'est vrai, on n'y a pas pensé, on fera ça l'année prochaine.
Alors comment ça se passe dans la matinale de Léa?
Alors,
ce matin,
ça se passe avec des voyages. Aujourd'hui, mercredi, on ne loupe pas l'occasion, on va aller en Israël et à Jérusalem précisément, on va visiter le musée de Jérusalem, incontournable. Et puis dans carte postale, juste derrière, là je vous propose quand même de faire un tour de France pour ce début d'année, des plus beaux des tours de France, justement. Allez, qu'est-ce qu'il y a à voir en France dans ce beau pays? C'est Evelyne Dreyfus qui nous le dira à 9h20. Et ensuite, le tour, cette fois, de l'histoire du monde séparade avec Pierre Mamou.
Très historique, hein, ce matin.
C'est très historique, très voyage. On apprend des choses. Et puis, Nathalie Zilberman avec ses livres pour enfants en début d'année. Quoi acheter j'adore. Pour les petits? Et enfin, Jean-François Strouf nous donnera un conseil d'émission à regarder hors du commun, mais vraiment, je vous conseille d'écouter la radio et d'écouter Jean-François ce matin.
Comment elle tisse bien, le suspense.
Que c'est quelque chose de formidable qu'il a découvert et ça concerne les peuples premiers. Si ça vous intéresse, restez avec nous.
Les peuples premiers, donc les juifs font partie des peuples premiers.
Absolument, mais alors là, non, on va pas parler des juifs pour une fois.
Écoutez, ce sera en tout cas à suivre tout à l'heure sur Radio J. On se retrouve quant à nous dès demain avec Eva Soto dès 6h et avec le retour de Pascal Sunshine aussi. Elle nous avait manqué, Pascal Ouf, comme on dit.
Avec le soleil qui brille.
À tout de suite.
À tout de suite.
Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio J en ce mercredi.